Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec ce matin Sarah Pitkowski, avec Marc Madio, avec Christophe Cessieux et Denis Charvet. Vous pouvez télécharger les deux premières heures des GG en podcast. Évidemment, on a parlé de l'intérêt du foot qui est peut-être en train de décroître. On a parlé du cyclisme qui devient rock'n'roll. Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu un message tout à l'heure sur WhatsApp de Romain qui me disait le cyclisme aujourd'hui, en fait, c'est comme le tennis. Et époque 2005-2020 avec Federer, Nadal, Djokovic, Murray, les quatre mousquetaires. Ouais, non, mais c'est ça, t'es d'accord?
Mmh. Ouais, il ressemble.
Un peu... Il faudrait pas qu'il y ait qu'un mousquetaire qui gagne quand même.
Ouais, c'est vrai. Bon, après, Nadal, c'était le seul mousquetaire à gagner Roland-Garros, par exemple.
Oui, enfin, les autres, ils ont un peu gagné.
Ils ont fait deux, trois autres trucs voilà. Derrière. Et il faudra peut-être en rajouter un cinquième bientôt. Bonjour Paul Sexas. on lui met pas la pression du tout dans cette émission, c'est ça qui est bien. Évidemment, dans un instant sur le buzzer, on va parler de l'Italie. Hein, c'est le drame de la semaine en sport. L'Italie qui ne participera pas à sa troisième Coupe du Monde consécutive. Peut-on perdre le statut de grande équipe ou de grande nation dans le sport? Tiens, posez-vous la question vous aussi et vous nous envoyez vos réponses sur WhatsApp au 06 12 424 424. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Je vous préviens, Christophe Cessieux est en repos demain. Il va mettre toute son énergie aujourd'hui. C'est une donnée importante à avoir pour le choisir dans son équipe ou pas. Remportez aujourd'hui un séjour d'une valeur de 550 euros dans un des 400 campings Homer. Des campings 4 à 5 étoiles situés en France. Voyagez selon vos envies de 2 nuits à 1 semaine jusqu'à 6 personnes sur l'année à venir. Pour remporter votre séjour Homer, appelez le 3216 touche 4. Envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Réfléchissez déjà à votre équipe si vous êtes choisi. Tout de suite les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG cette semaine, bah vous l'avez compris, c'est vrai qu'on parle des grandes transformations dans le sport. Hein. On l'a déjà un peu évoqué depuis le début. La F1 avec sa nouvelle réglementation, voilà, certains résistent aux changements et notamment des grandes légendes actuelles et passées aussi qui sont très critiques. On a parlé du foot avec de nouvelles règles testées en ce moment. Hein. Il y a la loi Wenger qui est testée au Canada, qui est en gros est de dire que désormais il y a en jeu uniquement quand tout le corps de l'attaquant est désormais devant le dernier défenseur. Bonjour l'avantage à l'offensive. Et le cyclisme, par exemple, qui communique différemment. On l'a vu avec Remco Evenepoel. Et j'en passe. Il y a aussi le tennis avec l'UTS en ce moment à Nîmes qui essaie de réinventer peut-être certaines règles. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. Comment savoir évoluer avec son sport? Parce que vous avez vécu, vous, de l'intérieur, le long de votre carrière ou de la suite de votre carrière, comme consultant aussi, ces évolutions. Marc, tiens, on va commencer par toi. En plus, on a cette image, peut-être qu'il y a une idée reçue, je pense, hein, parce que Marc Madio, c'est un conservateur, c'est important de garder l'histoire du vélo et peut-être un peu fermé à toute nouveauté. La réalité est beaucoup plus nuancée. Je pense quand on te connaît un peu, l'évolution du sport, toi, comment tu la vis de l'intérieur? Comment tu résistes à ça ou tu l'embrasses comme cycliste?
Les deux à la fois. En fait, ce qui compte dans de mon point de vue par rapport à un sport et par rapport au mien, c'est qu'il y a quelque part, il y a un ADN. Qu'est-ce qu'une course cycliste? Et qu'est-ce qu'à côté de cette course cycliste, on modifie ou on développe pour aller vers autre chose? Moi, ce qui compte pour moi dans le cyclisme et dans n'importe quel autre sport, c'est l'ADN du sport. Une course de vélo, c'est quoi? Une ligne de départ, une ligne d'arrivée? Un vélo et un mec sur le vélo qui essaie de passer la ligne d'arrivée devant son adversaire. C'est ça la course cycliste. Si on commence à vouloir tout modifier en permanence pour que ça devienne autre chose, que ça devienne une course de vélo, mais non plus de coureur...
Avec des
ça,
cartes joker, par
ça,
exemple.
Ça m'emmerde. Mais après,
donc ça veut dire que l'oreillette te dérange pas?
Si.
Ah si, par exemple.
Potentiellement, elle me dérange. Pourquoi elle me dérange?
Pourtant, t'as ton vélo et t'as le départ
bien
et t'as l'arrivée.
Oui. Sauf que
ça modifie la stratégie de course.
Sauf que ça modifie la stratégie de course et l'oreillette va apporter une solution au coureur qui est moins bon que l'autre.
Oui.
C'est-à-dire que si tu n'as pas l'oreillette, tu es obligé de t'impliquer et de réfléchir à la place de l'oreillette. Mais c'est une assistance. Oui. Donc l'assistance, elle est là pour pallier aux défauts coureur.
Dans le tennis, Federer n'a pas accepté d'avoir. N'a pas accepté qu'il y ait les coachs, que le coach puisse venir sur le terrain parce qu'il estimait. Et il avait un poids certain, il estimait que quand tu es sur le court, tu dois te débrouiller tout seul.
Et voilà.
Alors qu'on l'a instauré dans la WTA.
inéluctablement avec le temps, les choses évoluent. Moi, j'ai commencé le vélo, j'avais des cale-pieds, j'avais pas de compteur et je regardais les panneaux entre les deux villages. Il y a 3 km, 5 km, 2 km, et je faisais mon total pour savoir combien de kilomètres j'avais fait à l'entraînement. Après, sont arrivés les compteurs où je savais combien de kilomètres j'avais fait, combien de temps j'avais mis pour faire les kilomètres. Ensuite, sont arrivés les pédales automatiques. Après les pédales automatiques, on est arrivé au vélo en carbone. Le vélo à carbone, on est arrivé au capteur de puissance.
Mais ça, la technologie, c'est formidable.
C'est bien, mais c'est une assistance.
Oui, mais l'assistance.
Elle est la même. Oh, je suis d'accord, elle est la même pour tout le monde. Oui. Mais si tu veux, où il faut faire attention. Je dis pas qu'il faut pas faire, je dis qu'il faut faire attention.
Toi, tu dis attention à pas dénaturer, en fait.
Ne pas dénaturer ce qui est la base d'un sport.
C'est là où tu es résistant un peu parfois.
Oui, je suis résistant là-dessus parce que je trouve que le coureur, doit être au centre de ce sport. Et ce n'est pas non plus le vélo plus profilé, moins profilé,
le lapierre
qui est meilleur que le spécialized.
C'est ce qui se passe en F1 où on dit que le pilote n'a moins d'importance.
On est dans un sport mécanique.
Oui, mais aujourd'hui, ils ont tous le même vélo.
Le football n'est pas un sport mécanique. Non. Le cyclisme n'est pas un sport mécanique à la base. Le cyclisme, c'est un coureur. C'est des coureurs sur un vélo qui est-ce qui passe la ligne d'arrivée le premier. C'est ça.
Mais est-ce qu'il y a de grandes différences entre.
La mécanique est importante quand même.
Oui, mais il ne faut pas lui donner une importance prédominante. Voilà. Toi, il faut regarder des. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle réaction va avoir le coureur par rapport à une situation de course. C'est ça qui m'intéresse. Si on lui dit dans l'oreillette ce qu'il faut faire, on lui dit attention, dans 500 mètres, tu vas tourner à droite. Puis s'il l'a pas entendu, il va dire même tu m'avais pas dit que ça tournait à droite. On entre dans le ridicule.
Toi, t'es à la fois résistant et en même temps assez ouvert d'esprit quand même.
Mais on est forcément ouvert d'esprit.
T'es vigilant en fait.
Oui, je suis vigilant parce que je pense qu'il faut préserver, quel que soit le sport, il faut préserver l'ADN du sport, ce qui est la base du sport. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'intéresse à une course cycliste? Il y a du risque, il y a du danger, il y a des montagnes, il y a des descentes, il y a des sprints, il y a des contre-la-montre et tout ça. Mais au centre de tout, c'est le sportif.
Ouais, mais toi, quand tu es coureur, tu dois t'adapter à ces évolutions du sport.
Forcément aux situations.
Tu dois te transformer. Sarah, tiens, toi, sur l'évolution du sport dans ta carrière aussi, t'as vu le tennis évoluer.
Oui, alors le tennis.
Si t'évolues pas, tu meurs aussi parfois dans ton propre sport.
Oui, je pense que la motivation du tennis a évolué. Elle est surtout pour le téléspectateur et pour l'image en fait. Il y a des ajustements qui ont été faits, qui sont déjà de ne plus s'arrêter après le premier jeu, parce que avant le premier jeu, dès que tu avais fait 1-0, tu tournais, tu t'asseyais.
Donc, une longue pause.
Il y avait une minute trente. Il y avait le 1 minute 30 qui est maintenant à 1 minute 25. Donc il y a eu ça qui a sauté. Après, effectivement, le temps entre chaque service est passé de 30 à 25 secondes. En tout cas, tout ça a été motivé pour essayer d'accélérer le jeu, parce qu'en fait, le tennis. En temps effectif, il y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de temps mort. Et donc, comme c'est long, parce que c'est un sport un peu comme le cyclisme, tu sais quand ça commence, mais tu sais pas quand est-ce que ça finit, bah, c'est une vraie épine dans le pied pour les diffuseurs. Et on sait qu'un sport dépend aussi de ses droits et de ses droits télé.
Mais toi, quand tu jouais le sport, il a pas tellement évolué dans le jeu, en tout cas dans les règles.
Non,
dans les...
il évoluait pas dans le jeu, mais dans le tennis féminin, on cherchait à être plus attractif. Alors là, je vais vous faire sourire. C'est-à-dire qu'on a, j'ai été dans une période où on a forcé la glamourisation du tennis féminin.
Bah, qui jouait à l'époque, on rappelle. Hein.
Qui jouait à l'époque, la star qui nous faisait remplir, c'était Anna Kournikova.
Ah oui,
Anna
sûr,
Kournikova a amené la mode dans le.
Elle n'a jamais gagné un grand chelem.
Non, en simple, non, en double, oui.
Elle avait des jeux vidéo à son nom aussi, je crois.
Mais elle a fait bouger les marques sur les tenues. Elle remplissait les tribunes. Oui, et donc,
c'était une sportive de très haut niveau.
Bah, oui, mais en fait, elle a été top 10 mondiale.
Elle a été top 10, hein.
On va pas non plus.
Oui, non, mais je sais.
Mais on avait besoin de ça parce qu'en fait, effectivement, quand il y avait un grand chelem, nos matchs, ils étaient relayés sur les cours annexes. Et après, il y a eu les sœurs Williams qui sont arrivées. Et puis après, il y avait eu.
Mais de l'intérieur, comment vous observiez ça, en fait, à l'époque? C'est important le côté de la résistance en fait à l'évolution.
Alors les anciennes, elles étaient un peu résistantes parce qu'en fait elles trouvaient qu'on regardait trop la plastique plutôt que le tennis. Mais notre tennis, on va pas se mentir, il était pas attractif. Tu regardais Arantxa Sanchez jouer.
Il a évolué après sur le niveau physique.
Il a évolué parce que physiquement les joueuses étaient plus entraînées. Quand tu as donc plus de droits, donc plus d'argent, donc ton entraînement il est plus performant, donc tu augmentes ta qualité tennistique. Et on a vu arriver des athlètes qui étaient Kim Clijsters, qui était Amélie Mauresmo, qui était Justine Hénin, qui ont été les sœurs Williams. Et donc on a bougé les lignes. Et nous, nous, moi, j'étais la génération entre les deux, ben, j'ai dû tout bouger. Moi, je jouais comme Aranxa Sanchez, 10 mètres derrière. Et il y a un moment, quand je vois Martina Hingis ou Monica Seles qui arrivent et qui jouent collés à la ligne de fond, bah, je suis bien obligée de changer ma manière de jouer.
Donc, t'as dû changer ta façon de jouer au tennis en plein milieu de ta carrière à cause des évolutions du sport.
À cause de la manière dont ça jouait. Et pendant 6 mois, je n'ai fait que du mur.
Du mur?
Oui.
Le mur au club de tennis ou en tape?
Exactement. Parce que le mur, la balle, si tu fais des grands gestes au mur, la balle revient, tu peux pas la frapper. T'es obligé de réduire tes frappes pour pouvoir jouer contre le mur. Et donc, le mur m'a appris à modifier ma manière de me déplacer et ma manière de préparer. Et donc, voilà. Mais c'était des petites choses qu'on faisait à droite à gauche.
Donc, pour survivre à l'évolution, en fait, tu t'es dit, je vais devoir m'adapter.
C'est quand l'INSEE Davenport ou les Sir Williams ont commencé à servir à 180. Là, j'ai pas réussi à trouver
l'adaptation. Mais est-ce que ton sport te plaisait toujours autant? Parce que c'est ça, en fait, le fond de la pensée. Et de par exemple, ce que disent Verstappen et Alonso.
Oui, ben oui,
est-ce que dans l'évolution de ce sport, tu disais, c'est encore du tennis,
que
j'aime?
Oui, bien sûr. Mais parce que tu sais pourquoi? Parce qu'on avait des gens qui nous regardaient. Et c'est toujours, et quand tu fais du sport, t'as besoin d'avoir des gens qui te regardent et qui t'applaudissent. Donc en fait, il y a eu un pouvoir attractif qui est arrivé parce que ce sport s'est vite amélioré.
Savoir évoluer avec son sport dans le vestiaire des grandes gueules du sport aujourd'hui. Denis, le rugby a connu une transformation folle depuis l'époque où tu jouais, toi, de l'intérieur.
Bah, toi,
tu embrassais le progrès.
Non, mais ce sport est devenu exceptionnel. Enfin, l'évolution de ce sport est exceptionnelle.
Toi, tu as vu arriver les problèmes
en fait, ce que disait Marc tout à l'heure, je pense que ce qui est formidable, c'est qu'ils ont mis le sportif au cœur du projet. En fait, c'est devenu, on était des amateurs, on s'entraînait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont devenus des professionnels dans l'âme et des vrais, véritables athlètes. D'où plus d'intensité, plus de combats, un sport qui est devenu comme un peu de sport comme les gladiateurs à l'époque. C'est pareil. On va voir du rugby pour voir des mecs pas forcément se rentrer à la gueule, mais s'affronter.
Toi, tu as vu arriver la muscu?
La muscu, moi, c'est un truc de fou. Moi, au début des années 80,
vous t'en faisais pas du
tout.
On
a un joueur qui est arrivé qui s'appelait Carl Janik, de l'athlétisme, qui est un très, très bon athlète. Il est arrivé dans le rugby, il est devenu un très grand joueur de rugby de Stade Toulousain à mon époque. Il a amené la musculation. Et moi, je voyais ces gars s'entraîner à faire de la muscu. Je dis, mais ils sont fous. Et je me dis, avec des années de recul, mais je suis complètement dingo, moi. J'aurais dû y aller deux heures, trois heures par semaine.
À l'époque, les mecs qui faisaient du culturisme.
Non, mais
de la gonflette.
Non, mais là, ils font de la gonflette. Oui, non, mais là, en l'occurrence, les joueurs devant, avec Mazé, tout ça, Carl Janik avait amené cette évolution. Ils étaient précurseurs, et moi, je le regardais ça comme des, on avait un regard tellement, tu vois, malveillant même. C'était de dire, mais.
C'est pas du rugby.
C'est pas du rugby. Et en fait,
demander les artistes.
Ils avaient 40 ans d'avance.
La préparation, c'était pas la même.
La préparation.
Avant les matchs du 15 de France, moi, je me rappelle d'avoir lu des choses de Jacques Fourou, où ils se retrouvaient la veille d'un match ou l'avant-veille.
Oui,
et
mardi,
ils se faisaient un festin incroyable à picoler, à bouffer, mais comme des ogres.
C'est vrai, c'est le rugby d'avance.
Ben oui, mais là aussi,
il y a eu des...
Et certains l'ont mal vécu, cette évolution-là, parce qu'il y avait cette connotation un peu festive.
Trop festive.
Du rugby aujourd'hui.
Et puis on a eu des grands visionnaires. Max Guazzini a apporté au rugby le côté glamour. Il a compris que
l'expérience spectateur
où il a réuni au Stade de France pour des matchs de championnat de 80 000 personnes entre Toulouse et le Stade Français. Enfin, je me souviens de ces matchs-là, c'était absolument incroyable. Toutes les familles sont venues.
Mais toi, t'as participé même à tous ces trucs-là, les commissions du marketing, de la communication.
Mais non, mais c'était l'état
de Toulouse.
Je trouve que
sur le calendrier. J'aimerais bien retrouver la photo.
Mais ça, c'est Max Guazzini. Ouais. Il y a eu Mourad Boudjella qui a amené ses stars dans le rugby. Souvenez-vous à Toulon. Il y a eu plein de personnes qui ont révolutionné le.
Oui, mais en fait, le truc, c'est que toi, tu disais, il y avait des gens qui étaient malveillants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous ressentiez. Est-ce que toi, tu te disais, c'est encore du rugby?
Il y a eu une époque.
Est-ce que c'est encore de la F1? Est-ce que c'est encore du vélo? Certains vont se dire.
À un moment donné, il y a eu les Racing Men qui sont arrivés avec leurs nœuds papillons. Ça a été une révolution dans le rugby. Et là, eux, ils étaient regardés avec un regard vraiment. je sais pas, malveillants, mais
condescendants.
Ils étaient très jalousés, mais en même temps, ils ont amené une fraîcheur, un côté glamour extraordinaire. Ils ont fait une finale de championnat avec un nœud papillon rose. C'était génial. Ils sont allés jouer avec des bérets basques contre Bayonne. Et nous, au Stade Toulousain, ils sont même peints en noir parce qu'il y avait un pilier qui s'appelait Lélano, que j'embrasse et qui jouait pilier.
Ça, tu peux plus le faire aujourd'hui.
Oui, ils sont arrivés, ils sont peints pour lui rendre hommage. Ouais, mais... et ils sont rentrés sur le terrain.
Possible, ouais.
Oui, non, mais
c'était notre époque.
C'était notre époque, mais c'était pour lui rendre hommage. Donc, si tu veux, c'était.
C'est très bien que ce soit plus possible d'ailleurs. Ouais, mais c'est vrai que.
Ils ont tout fait. Ces gars-là ont amené un vent de fraîcheur dans le rugby. En fait, ils ont amené le côté, l'idée même, le spectacle.
On est dans le vestiaire, comment savoir évoluer avec son sport. Bah tiens, Christophe, toi pour le coup, ça fait combien d'années que t'es journaliste sportif?
35.
Les débats qu'on a ici, par exemple, sur l'évolution du sport, c'est des débats qu'on a depuis le début de la saison et qu'on a tout le temps en fait. C'est des sujets permanents.
Mais c'est surtout.
Et il y a ceux qui restent sur le bord de la route.
C'est les résistants. À la radio, ça n'existait pas. Dans le milieu des années 90, il n'y avait pas d'émissions comme l'After, évidemment. Le premier qui a lancé ça, c'est Eugène Saccomano sur Europe 1.
On décryptait en direct,
c'est
tout.
La première fois, on a réuni des sportifs, des consultants, des journalistes autour d'un micro et on a discuté de tout ça. Avant, ça n'existait pas. T'avais le sacro-saint Stade 2 le dimanche soir, mais il n'y avait pas de débat. C'était une succession.
Oui, c'était un décryptage de l'actualité sportive.
Voilà,
point.
Téléfoot, c'était la même chose. Mm. Et là, pour la première fois, au mi-temps des années 90, il y a ça qui, Marc a participé à ces trucs-là aussi, et ça a été une révolution. Toutes les radios sont mises à faire la même chose, les télés ont suivi derrière avec la chaîne L'Équipe et tout ça, mais ça a été là aussi une révolution. Et puis il y a eu d'autres évolutions.
Mais parce qu'on ne demandait pas la vie aux sportifs,
les rapports qu'on entretenait avec les sportifs. Avant, oui. T'étais obligé d'avoir le sportif parce qu'il fallait avoir sa réaction. Donc on était très proche d'eux. Aujourd'hui, on fait des débats, on n'a plus besoin des sportifs. D'abord, ils n'ont plus besoin de nous, et on n'a plus besoin. Ça s'est vachement.
C'est qu'en fait, on n'a pas accès à eux, en fait. C'est aussi simple que ça. On a moins accès à eux. On aimerait bien les avoir, hein.
Avant d'arriver effectivement à ce stade où il y a un fossé entre ceux qui commentent le sport et ceux qui le font, mais. Au début, c'est-à-dire que le sportif n'avait pas le droit à la parole. Les consultants, quand on commentait un match de tennis, un match de foot, il n'y avait que le journaliste qui avait le droit à la parole. C'était inenvisageable d'avoir le côté spécialiste à côté journaliste. Et ça a bougé aussi.
Le premier consultant de l'histoire, c'est Pierre Albaladejo, qui n'avait pas le droit de rentrer en tribune de presse à l'époque.
Ah,
et
oui.
Donc, Roger Coudert, à l'époque, qui était sur Europe 1, c'était au moment de 68, allait à travers le grillage qui séparait la tribune de presse de la tribune des spectateurs et lui tendait le micro à travers le truc pour qu'il raconte ce qu'il avait vu et analysé. Aujourd'hui, ça paraît complètement dingue.
Mais comment savoir évoluer avec son sport ? Effectivement, ça n'a plus rien à voir avec il y a quelques années, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que dit Christophe, parce que c'est l'environnement médiatique qui est en fait vous avez en face de vous quand vous êtes sportif, évidemment, a complètement changé. Ouais. Non mais Marc,
pas changé, c'est une révolution.
Là aussi, toi, tu dois savoir t'adapter à ce nouvel environnement, les nouveaux formats, à la nouvelle façon les nouveaux narratifs. Mm-hmm. On parlait tout à l'heure des nouveaux storytelling avec Remco Evenepoel. Il faut changer son logiciel tout le temps, en permanence par rapport à ça. Toi, t'es attentif à ça ?
Moi, je suis attentif, mais je fais confiance à mon instinct. En fait, tu te retrouves dans des situations où il y a des perches qui se tendent et il faut profiter de ces perches qui se tendent pour en profiter.
C'est ce qui s'est passé avec Netflix, t'as accepté. Voilà. Alors qu'au départ.
Netflix, je vais être honnête avec vous, Netflix, je connaissais de nom, mais j'ai Netflix à la maison, mais c'est ma femme et mon gamin qui regardent Netflix. Je ne regardais ou je ne regarde jamais Netflix. Mais quand arrivait l'histoire du Tour de France et du documentaire, j'ai quand même dit, faut quand même que je regarde, je vais pas avoir l'air trop con, je vais essayer de regarder un peu à quoi ça ressemble.
Tu t'es fait la Casa des Papels toute la saison.
J'ai regardé deux épisodes de la F1, j'ai dit bof. Et puis j'ai dit bon, allez, je vais pas me laisser influencer parce qu'il a déjà été fait, j'y vais, puis je verrai bien.
Et c'est devenu un personnage récurrent, qui pendant les trois saisons.
Mais je me suis adapté au truc.
Alors
que les
gens qui sont passés, qui ont disparu, Marc Madiot est resté sur les trois ans. T'es sans doute l'un des personnages les plus importants de la série.
Tu t'es adapté au truc parce que tu te dis que ça va servir à ton sport, en fait.
Je me suis dit, ça fait partie de mon job.
Ça fait partie du job.
Si vous, ce qu'il faut avoir présent à l'esprit.
Encore ça aujourd'hui.
Ça fait partie de mon job. Si je refuse un entretien, si je refuse un journaliste, si je refuse de répondre, il faut que je change de métier. Il y a des moments où ça m'arrange, il y a des moments où ça va moins me plaire. Mais je suis obligé de vivre avec et de m'adapter à la situation. Et Netflix, je me suis adapté à Netflix. J'ai dit, OK, vous voulez faire ça, vous voulez rentrer dans la vie de l'équipe, rentrez dans la vie de l'équipe. Tant que vous respectez le coureur ou les membres de l'équipe, go ! Moi, j'ai répondu à chaque fois à Netflix sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée.
Sans calcul.
Non, sans calcul, j'étais open. Après, je suis quand même pas né de la dernière
Partie. Voilà.
Je savais parfois où il voulait aller et au moins où je faisais mon job, mon rôle.
Et puis on connaît tous très bien Marc Madiot pour l'avoir interrogé. Quand il a pas envie de vous dire un truc, faut vous dire qu'il vous dit rien. Ah, ça, il est très fort.
Gestion des silences, ça marche.
La réponse d'une seconde, il te regarde dans les yeux.
Non mais Denis, c'est pareil, l'environnement médiatique.
Ben surtout en rugby, tu vois aujourd'hui l'importance. Un canal a fait un boulot incroyable pour le rugby. C'est le partenaire historique qui a révolutionné.
En fait, il faut savoir si évoluer main dans la main.
Non mais eux, football n'avaient pas.
Mais la survie d'un sport aujourd'hui, la survie d'un sport, elle tient aussi de son narratif. Et on en parlait tout à l'heure avec les stars. Il faut des stars, mais aussi il faut un narratif qui permet de créer un film et un feuilleton. En fait, c'est un feuilleton.
Oui, mais en fait, moi, ce que je retiens de vous tous là, c'est que en fait, le narratif, entre guillemets, on va l'accepter à partir du moment où ça ne va pas dénaturer ce qu'est votre sport et que ça ne va pas desservir votre sport. Parce que quand on voit par exemple la Formule 1, certains disent, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'est la F1, ce qu'on raconte. Si le pas de côté est trop important et que ça dessert votre sport, vous êtes un peu moins d'accord, en fait, à évoluer. Oui. C'est en ça que je disais que toi, t'es un résistant, mais t'es un vigilant, en fait, surtout, Marc. Tu acceptes des choses. Vous observez, Denis aussi, je pense pareil. Il ne faut pas que ça aille.
Il ne faut pas que ça aille trop loin.
Mais regarde.
Il faut que ça reste quelque chose de normal et naturel. Il faut que ça vienne naturellement.
Denis. Non, mais nous, il y a plein d'évolutions dans notre sport qui ont marqué le.
Tu en parlais de Pollock tout à l'heure. Il ne faudrait pas que ça devienne un personnage de carnaval non plus.
Là c'est.
Que ça dénature
C'est pas notre culture, en fait. C'est ça qu'on parle de la culture, l'identification, en fait. Et c'est vrai que là, c'est une exagération, mais moi, je suis pas contre parce qu'on a besoin de stars. Après, il faut faire attention. Voilà.
Faut pas créer
des produits qui viennent de naître.
T'es naïf, Denis. Aujourd'hui, ceux qui réfléchissent à l'évolution d'un sport ne sont pas que des sportifs.
Ce
sont des chaînes d'entreprise.
Avec la Coupe Davis, par exemple, il est passé complètement à côté, alors que pourtant c'est quelqu'un qui vient du sport. Mais là, il s'est transformé en businessman et il a tué la Coupe Davis.
Exactement.
Non, mais aujourd'hui, effectivement, regardez en Formule 1, regardez en cyclisme, regardez dans d'autres sports, en football, ce ne sont pas toujours des passionnés qui sont à la tête des entités. Ce sont des chefs d'entreprise.
Les gens qui sont là pour faire de l'argent.
Comment savoir évoluer avec son sport? C'était le sujet du vestiaire. Bon, c'est un vaste sujet.
Vous avez 3 heures, mais en silence pour être dans
Bien sûr, mais c'est vrai.
Non, mais... de la philo 2026.
Moi, je me pose la question de savoir dans 20 ans ce que ce sera le sport.
Est-ce que le ballon de rugby sera toujours ovale?
Non, mais
on ne le fera pas que devant un ordinateur, le sport.
Non, mais c'est vrai, c'est une question.
Peut-être qu'il y aura un robot Charvet. C'est intelligence artificielle, Denis Charvet.
Qu'est-ce que t'en penses, toi,
artificielle plus en 20 ans.
Je fais référence au cyclisme. Aujourd'hui, qu'il y a des conditions météo difficiles, tout de suite on annule, on remplace. Je dis, mais demain, on fera les étapes sur Swift. Là, on touche à la connerie absolue.
Absolument. Non, mais en fait, c'est juste ça. Très rapidement, oui ou non, est-ce que vous êtes inquiet sur l'avenir de votre sport avec la technologie et tout qui arrive?
On peut se poser la question.
Tu poses la question, Marc.
On peut se poser des questions.
Sarah.
Non, je pense qu'on aura toujours. On aura toujours deux raquettes et une balle.
Il y aura toujours un moment où on va retrouver nos racines.
Inquiet sur l'avenir de la civilisation en général.
Et un sport qui, pour moi, est en voie de disparition.
Eh ben justement, on va y aller à fond.
L'IA et compagnie.
Dans ce sujet-là, sur les racines et sur l'histoire, puisqu'on va se demander si on peut perdre le statut de grande équipe ou de grande nation.
L'Italie est en voie de disparition.
Exactement.
Arrêtez de nous moquer de ces pauvres Italiens.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, avec Denis Charvet, avec Marc Madio, avec Sarah Pikowski. Dans un instant, on va se chamailler avec les jeux du sport. Mais d'abord... Et oui, la musique de la Ligue des Champions, parce que c'est le moment pour vivre l'expérience RMC et gagner vos places pour PSG Liverpool ce mercredi au Parc des Princes. Vous avez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Mais d'abord, le drame de la semaine en sport, c'est évidemment celui des Italiens qui ont manqué la qualif à la Coupe du Monde pour la troisième fois d'affilée.
RMC, les GG sur le buzzer.
Dajrovic, le tireur bosnien, la Bosnie qui commence donc. Un but partout après le temps réglementaire, la prolongation. Cette séance de tir au but pour savoir qui ira en Amérique du Nord pour cette Coupe du Monde. Pio Esposito qui a la lourde tâche d'entamer la série des tireurs pour l'Italie. Esposito, des petits pas d'ajustement. Oh, c'est au-dessus! Allez, le joueur de la Roma, Brian Cristante, 49e sélection aujourd'hui. Brian Cristante, oh la barre! Et non! Ça fait 3-1 et donc la Bosnie a une balle, un tir au but de qualification derrière, 3-1. Allez, Bajrak Tarević, le joueur du PSV Eindhoven, 21 ans, qui peut envoyer la Bosnie à la Coupe du Monde à la place de l'Italie. C'est parti pour le gaucher. Oh, c'est dedans, alors que Donnarumma est passé. La Bosnie est qualifiée et l'Italie, après 2018, après 2022, eh bien ne verra pas la Coupe du Monde 2026.
Vous vous rendez compte? Parce que là, nous, on est tranquille, là, ici en France. Mais en Italie.
Ouais.
Combien de nuits blanches cette semaine encore?
Un drame.
12 ans sans Coupe du Monde pour les Italiens. S'ils se qualifient en 2030, donc, on fait le calcul, hein, ils auront attendu 16 ans pour retrouver le mondial. Peut-être qu'ils ne seront pas au prochain également. Donc,
ouais, si, maintenant qu'on va passer à 96, puis à 124 pays, au bout d'un moment, on sera qualifié.
Ils sont toujours pas là.
On aura bientôt,
c'est vrai.
On aura bientôt plus de participants que de nations dans le monde. Hein. On va inventer un truc. Les GG, je vous pose la question, très simple. L'Italie ne disputera pas une troisième Coupe du Monde. Et là, je voudrais qu'on réfléchisse à tous les sports en général. Oui. Est-ce qu'on peut perdre le statut dans le sport de grande équipe ou du coup de grande nation? Oui ou non déjà, Christophe?
Je ne pense pas.
Sarah?
Bah moi oui, je pense, oui.
Denis?
Non.
Marc?
Non.
Et participez évidemment sur WhatsApp au 06 12 424 424 où on vous accueille au 32 16. Tiens, pourquoi tu dis oui, Sarah?
Bah parce que quand tu une génération n'est plus au niveau, on t'enlève pas ton palmarès, mais évidemment que quand tu n'es plus au haut niveau pendant une génération, 10, 15, 20 ans, bah, tu n'es plus une grande génération, alors
une grande nation
au moment où tu en parles. Après, j'ai essayé de chercher des sports où effectivement il y a eu une dégringolade comme le vit l'Italie. Bah, j'en ai pas trouvé.
Autant, ça veut dire.
Oui, ouais, j'en ai pas trouvé. Je cherche dans le hand. C'est toujours un peu les mêmes pays qui sont là. Nous, on a un petit recul en ce moment, mais on reste quand même une grande nation.
Le pays de Galles en rugby connaît une.
Oui, mais t'as raison. Mais il y a, ce que je veux dire, il y a quand même peu de pays qui jouent au rugby, donc c'est quand même pas facile.
Ouais, justement.
Pourquoi c'est pour une génération? En fait, pour une génération, ce ne sera pas une grande équipe.
Pendant 16 ans, une équipe comme l'Italie, qui est pourtant au championnat d'Europe, hein, qui joue les championnats d'Europe, n'est pas en Coupe du Monde.
Les plus jeunes, pour ceux qui sont nés en 2010,
c'est champion d'Europe il n'y a pas longtemps.
Mais qui a gagné le dernier championnat d'Europe? Bah
oui, ils ont 4 étoiles sur leur maillot.
Mais oui, mais
c'est un immense pays de foot. Tout le monde parle. Pour y avoir passé 3 semaines là pendant les Jeux, je peux te dire que le foot en Italie, c'est une religion.
Mais tous les gens vont au resto,
mais Christophe,
ils mangent des pâtes et regardent le match.
Mais c'est pas la question, Christophe. La question, c'est pas. Mais l'idée, c'est pas de dire est-ce que dans ton pays tu vas rester un pays de foot. C'est est-ce que, justement, en France, en Espagne, en Colombie, on va continuer à dire, les jeunes Colombiens vont continuer à se dire, l'Italie est une grande nation. Ouais. Ceux qui sont nés en 2005.
Non,
mais Christophe.
Oui,
ça fait 20 ans.
Oui, c'est un problème générationnel.
Mais
je suis persuadé que la Colombie, que le Liechtenstein, que n'importe quelle équipe, si demain elle est appelée à affronter l'Italie, elle se dira, attention, ils sont peut-être pas à la Coupe du Monde, mais ils ont 4 étoiles, là, sur le maillot. Ouais. Et donc, c'est pour ça que ça restera.
Donc, il va falloir tourner les pages et regarder. Ça a été une grande nation, mais ça n'est plus.
Des accidents.
Mais t'es obligé
que l'Italie reste une grande
nation. C'est un accident.
entre ces non-qualifications, tu as quand même une victoire dans l'Euro. On dit que l'Euro est plus difficile à gagner qu'une Coupe du Monde.
C'est ça qui est invraisemblable.
Je pense que cette équipe, elle a été matrixée et que dans la tête, ils y sont pas. C'est vraiment un problème mental parce que c'est pas normal. Le niveau de l'Italie, c'est pas ça de pas participer à trois Coupes du Monde. C'est pas le niveau que, par exemple, avait l'équipe de France dans les années 60-70 où là, elle était incapable de se qualifier pour une Coupe du Monde. Et pourtant,
on parle qu'il y a pas de niveau. On parle qu'il y a
mais le niveau est lié. Le niveau est lié.
Non, il est peut-être plus au niveau. Leur championnat est. Les Italiens ne sont pas brillants dans leur championnat.
Les amis, vous partez dans un autre débat. La question n'est pas tellement sur le niveau. Est-ce qu'ils ont le niveau ou pas? La question est philosophique.
Non, mais exactement.
Est-ce que tu restes une grande équipe dans la considération? C'est être et avoir été.
Non, mais est-ce qu'on ne va pas parler de. C'est un problème générationnel aujourd'hui au niveau du sportif. Mais après, on parle. Le débat, c'est pas ça. Le débat, c'est est-ce que ça reste une grande nation du football?
Par exemple, toi, le Pays de Galles, tu nous disais quand j'étais gamin, j'avais le maillot du Pays de Galles. Pour moi, c'était le maillot du Brésil. Du foot.
Alors tu vas me répondre, tu vas venir les gosses qui sont nés en 2005 aujourd'hui, ben ils connaissent pas cette épopée là.
Pour eux Cardiff, oui, mais Millennium, c'est pas grand chose peut-être.
Il faut parler de l'histoire de notre sport. Normalement, quand tu grandis, que t'aimes, t'es passionné, tu dois connaître l'histoire de ton sport. Enfin, moi, ça a toujours été mon cas.
Moi aussi.
J'ai respecté les anciens, j'ai regardé les anciens, et ça devrait être le cas encore aujourd'hui. Je ne suis pas certain. Hein, tu as raison. C'est toi qui me l'as dit hier. Donc, quand tu m'as appelé, je ne suis pas certain que la jeune génération qui sont nés en 2005, ait une espèce d'appréciation sur l'équipe du Pays de Galles, qui était l'équipe du Pays de Galles, qui était monstrueuse, qui a été que j'ai badé. Moi, j'ai badé les Gareth Edwards, les Williams, ces trucs. J'ai badé ces mecs-là. Moi, quand je dis badé, j'étais fan. Moi, j'ai même eu
c'était le All Black d'Europe.
Mes parents m'ont offert à mon anniversaire, je vais avoir 10 ans, une tenue du Pays de Galles.
Et pour ça, c'était une tenue de super-héros.
Je veux dire, ça a existé, mais encore une fois, il faut parler d'histoire pour parler de ce débat. Je pense que c'est l'histoire. L'histoire, la Squadra, c'est l'histoire. Et ça restera toujours dans l'histoire. C'est une.
Attendez,
mythique, c'est magique.
On a tous passé 50 ans autour de la table.
Mais c'est la transmission, la réalité.
Présenter aussi les jeunes qui suivent le sport aujourd'hui. Pour eux, l'Italie n'est pas une grande nation. Le Brésil n'est plus une grande nation non plus. Mais le Brésil est qualifié pour la Coupe du Monde.
Le Brésil est une grande nation quand même.
Sans Coupe du Monde. Les amis, on parle pas de pas passer une phase de groupe.
On n'est même pas sélectionné. Tout le monde n'est
pas
attaché.
Alors qu'on a augmenté le nombre de pays.
À l'histoire, pour la jeune génération aujourd'hui, peut-être que pour certains, le Saint-Étienne, le Stade de Reims, ça ne leur évoque pas grand-chose. Auxerre de Giroud, ça ne leur évoque pas grand-chose. Ça fait que pour eux, par exemple, je sais pas, Auxerre, Reims sont devenues des équipes comme ça.
Mais on n'est pas représentatif.
Toi qui es au contact, par exemple, de la jeune génération, de jeunes coureurs, est-ce qu'ils sont sensibles à ça, les grandes équipes, le maillot de la FDJ qui est là depuis des années, le maillot de la Quick-Step qui était une grande équipe de classique, est-ce que ça reste?
Oui.
Je pense que quand
des gamins arrivent dans notre équipe, quand ils ont la chance et l'honneur, je dis bien l'honneur de porter notre maillot, il se passe quelque chose, toujours.
Mais parce que votre équipe est encore au plus haut niveau.
Parce qu'on a une. Non, mais moi j'ai des gamins qui aujourd'hui arrivent dans l'équipe, l'équipe était née avant eux. Elle était déjà là.
Mais elle existe.
Donc on a une histoire.
Elle existe encore aujourd'hui. Là, la Squadra Azzurra, elle existe plus.
Fab sur WhatsApp, 06 12 424 424, me fait cette déclaration intéressante. Il dit, l'Uruguay a gagné les deux premières Coupes du Monde. Est-ce que ça reste une grande nation, une grande équipe?
Alors, 1950.
Ah oui, d'accord,
les gars,
l'histoire, ça marche selon la durée.
Ouais,
mais là, l'histoire.
Ça reste quand même une grande nation.
Mais
regardez. On regarde l'Uruguay avec un peu particulier.
L'Uruguay en Coupe du Monde.
Tu as du respect pour cette équipe.
On comprend rien, Christophe.
Quand tu prends l'Uruguay en Coupe du Monde, qu'elle tombe dans ton groupe, tu te dis, ça a été une grande nation. Et tout de suite, on reparle du passé. Et effectivement, 1950, là, ça 1930 et 1950, ça commence à être un petit peu vieux. Mais
c'est le cœur du problème.
Est-ce qu'on peut être déclassé?
On est combien? On est 80 ans plus tard. Oui. Si l'Italie ne se qualifie pas pendant 80 ans pour la Coupe du Monde, peut-être on pourra commencer à en parler.
Mais donc, mais ça veut dire que ça peut arriver, en fait. Le déclassement existe.
L'Uruguay, tu connais bien l'Amérique du Sud. C'est un tout petit pays.
Non, mais c'est un tout petit pays.
Combien licenciés par rapport à l'Italie? L'Italie, en Italie, tous les gamins jouent au foot. Tous les gamins jouent au foot. Et un jour, ils ont quand même une capacité, comme la France, à reformer de grands joueurs qui vont redevenir les cadors dans les années à venir. L'Allemagne a connu une période sans, après ses titres, où elle s'est qualifiée juste pour le premier tour. Le Brésil, battu chez lui, 7-1.
Mais que représente aujourd'hui? Aujourd'hui, par exemple, l'AC Milan ou Manchester United pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes,
L'an dernier, qui était en finale contre le PSG l'année dernière?
L'Inter Milan.
Bon, bien bah sûr. Voilà.
Oui, non, mais faut se mettre aussi dans le rôle des plus jeunes.
Mais non, mais les plus jeunes, on parle de la transmission, qui est essentielle, la transmission. Est-ce qu'elle existe aujourd'hui par rapport à la jeune génération?
Moi, je ne sais rien. Moi,
à mon époque, j'avais 20 ans, je peux te dire la transmission. Tout le monde se
non, mais là, on n'est pas dans le débat. C'est de la transmission. Si. Tu te transmettes de quoi? Puisqu'ils sont pas qualifiés. Ils ont fait une phase de qualif qui est détestable. Ils prennent 3-0 contre la Norvège tout de suite.
Non, la transmission, c'est de connaître l'histoire.
Ouais. Mais connaître l'histoire, c'est autre chose. De savoir qu'ils ont 4 étoiles sur le maillot, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils font partie des grandes nations du foot.
Posez-vous la question juste.
Antoine Dupont, ouais. Il connaît toute l'histoire du rugby.
Oui, mais c'est très bien.
Non, mais je veux dire,
peut-être que tous les joueurs de l'équipe d'Italie connaissent aussi toute l'histoire de leur pays.
Mais pensez-vous chez vous, ou dans votre voiture, en train d'attendre pour mettre le plein, peut-être, auditeur, auditrice, est-ce que Ferrari sera toujours une grande écurie de Formule 1 pour vous? Ils n'ont pas été champions depuis 2007.
L'Ajax d'Amsterdam sera toujours un grand club, de par son maillot, de par ses couleurs, de par son...
Peut-être pas pour tout le monde. Ça, c'est ce que tu penses de ta génération.
Donc, aller dans les bouquins, aller regarder les jeunes et apprendre au lieu de
rester idiot. Les jeunes sont cons,
arrête un peu, arrêtez de manquer de considération pour la jeune génération, respectez tout le monde s'il vous plaît. Les grandes gueules du sport reviennent pour jouer dans un instant, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, Christophe Cessieux, Marc Madio, Sarah Pitkowski, Denis Charvet. Tiens, j'ai un message de Mehdi sur WhatsApp qui nous dit: l'histoire ne fait pas une équipe à l'instant. L'Italie a beau avoir été une grande équipe avec plusieurs étoiles, aujourd'hui elle est devenue une équipe lambda. Ben oui, c'est un peu le sujet de l'instant.
J'ai vu sur les réseaux sociaux, me dit Sarah Pitkowski est une négationniste.
Respecte l'histoire. Allez, les jeux du sport tout de suite.
RMC, les jeux du sport.
Je suis avec toi, Sarah, à la vie et à la mort. Ouais. Je vous rappelle le principe, c'est du 2 contre 2, vous allez défendre un auditeur.
Ça, je vais vraiment voir si t'es avec moi à la vie et à la mort sur le jeu. Tu m'as donné les réponses.
Non, il est pas avec quoi.
Je te donne 5 points tout de suite. Tiens, vous savez quoi? Comme vous venez vous prendre la gueule, finalement, on va vous mettre ensemble. Parce que moi, je suis là. Christophe Cessieux et Sarah Pitkowski. Ensemble, on va changer les équipes. Complètement lunatique. Deux secondes plus tard. Ah, je l'adore.
Je vous adore tous.
Et donc, Denis et Marc.
Surtout Marc.
Allez.
En fait, tu le crains, Marc.
Marc, je le bats.
Si. Tu le bats ou tu le crains?
Allez.
C'est différent.
Là, on a que les auditeurs. Anthony et Bakary. Salut, messieurs.
Bonjour les grandes gueules.
Bonjour.
Bonjour.
Bakary, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe avec Charvet Madio ou Cessieux Pitkowski. Charvet Madio ou Cessieux Pitkowski. Un ou deux, Bakary?
Un.
Allez, tu vas avec l'équipe Charvet Madio. Donc Bakary et Anthony avec l'équipe Cessieux Pitkowski. Je vous rappelle aujourd'hui à gagner un séjour d'une valeur de 550 € dans un des 400 campings Homer. Allez, c'est parti les amis, concentrez-vous s'il vous plaît.
Allez.
Question à une seule réponse. Qui est le dernier vainqueur français du Tour des Flandres?
Jacques Durand.
Marc Maggio.
Non, Marc
Maggio.
Mais tu dis Durand, moi je commence à dire
Non, tu vas commencer.
Tu vas quand même pas t'en prendre à Marc Maggio.
Si. Quand il y a un jeu, il n'y a plus d'amis.
On a eu dans le Kikadi cette semaine, je suis.
Question à une seule réponse, 1-0 pour l'équipe Maggio Charvet. Qui est le joueur de Ligue 1 le mieux payé selon les estimations?
Dembélé.
Mais c'est moi en haut.
Non, je crois que c'est Christophe.
Mais je suis parti de 2 heures avant, là, quand même.
Je crois que c'est Christophe.
Non, j'ai dit Dembélé d'entrée, mais quand même.
VAR me dit.
Non, VAR, tu regardes, Maxime.
Maxime Abolin, notre producteur. On reste à 1-0 pour l'instant. 1-0 virtuel.
Mais là, il n'y a pas la VAR pour la
question. Quand même. Mais parce que tout à l'heure, t'es parti plus tard.
Ah oui, non, mais il y avait au moins une demi-seconde.
Question auditeur, c'est pour vous. Allez, s'il vous plaît. Question auditeur, c'est pour vous, Bakary et Anthony. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom. Comme ça, je sais qui a donné la réponse, ok? qui est l'entraîneur le mieux payé de Ligue 1? Un point en moins pour l'équipe de Christophe.
De toute façon, on a bien compris que tout le monde veut me faire perdre, donc je vais me faire perdre tout seul.
Mais arrête, tout le monde est joueur, c'est incroyable.
Donc là, tu dois être en train de faire perdre Anthony, quoi.
Anthony,
bah, du coup, moins un point, donc ça fait 1 à moins 1. Non, mais Christophe, arrête. C'est quoi ça? Question à une seule réponse, les GG. Question à une seule réponse.
C'est pour nous.
À quelle place Wembanyama et les Spurs pointent au classement de la Conférence Ouest?
Premier.
Le classement de la Conférence Ouest. Ah, t'as déjà donné trois réponses.
C'est pour nous. Il y a une réponse.
C'est combien alors?
Non, mais c'est pour nous.
Mais c'est combien?
S'il dit deux réponses, il est mort.
Mais vas-y, alors donne trois réponses.
Ils sont deuxième, Denis Charvet.
Mais j'ai dit deux.
Mais non, t'as dit trois, quatre.
Et vous avez donné, j'ai dit une réponse. Les gars, écoutez pas.
Quand même.
Christophe Cessieux est parti.
Ah oui, il est parti.
Il a fui.
Non, mais c'est incroyable.
Ouais. Georges, est-ce que tu peux me dire la réponse de Dembélé?
Je sais pas, on va la voir.
Bah, si, quand
donc, 2 à moins 1 pour l'équipe.
Il est trop beau, voilà, il revient.
Et le Christophe, point, la super question, le point après VAR
est bien pour Denis Charvet. Donc, ça fait 3 à moins 1.
Il y a toujours la question.
Question impossible.
Impossible.
Mais la question impossible, Christophe
Cessieux. C'est parti.
Allez. De toute façon, au point de vue, on en est.
Allez, vas-y, Christophe.
Parce que tu s'abordes. C'est incroyable.
Allez.
Question impossible, vélo, Christophe.
Allez, Christophe.
Tu prends 3 points. Si tu réussis, vous revenez à 3-2.
Deux points avant.
Qui est le dernier Britannique à avoir remporté le Tour des Flandres en 1961?
J'ai.
Tom Simpson.
Bravo.
C'est bon.
Bravo, Christophe.
Bravo Christophe.
Eh ben les deux points normalement. Pardon.
C'est trois points.
Maintenant c'est passé à trois points.
Tu vois, il connaît bien l'histoire du sport qu'il aime. Ouais.
Allez, 3-2, on enchaîne. Ouh là là, question à plusieurs réponses, Christophe. On écoute avant de râler. Question à plusieurs réponses possibles. Quel tournoi de golf mythique se déroule la semaine prochaine?
Le PGA.
Masters,
Denis Charvet.
Comment je peux vous parler là-dessus?
4-2.
Bravo.
Ouais. Question auditeur, ce sont les auditeurs qui répondent.
Christophe.
Anthony Baccari, c'est pour vous. Comment s'appelle la Française qui est arrivée en demi-finale de Roland-Garros l'année dernière?
Boisson.
Pour nous. Anthony. 4-3. Question c'est élimination, bien, c'est pour 2 points, les amis.
C'est quoi la question?
Question élimination pour 2 points. Alors, on va mettre la petite musique. 4-3 pour l'équipe Charvet-Madio. Donnez-moi tout simplement les 48 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde de foot.
Mais tu as déjà fait celle-là.
Ça se jouera là-dessus, celui qui gagne. Bah non, on n'avait pas les 48 équipes, donc arrête de mentir. Denis, c'est parti.
La France.
La France, tout simplement. Sarah.
Le Brésil.
Le Brésil. Marc.
Croatie.
La Croatie. Christophe.
L'Irak.
Et pourquoi tu te dis comme ça?
Parce que
Denis.
Norvège.
La Norvège, c'est bon. Sarah.
Bah, la Bosnie.
La Bosnie-Herzégovine.
Belgique.
La Belgique. Christophe.
L'Espagne.
L'Espagne.
Non. Pays-Bas.
Je sais plus.
Pays-Bas.
J'ai pas,
Sarah.
Le Portugal.
Le Portugal, c'est bon. Marc.
Allemagne.
L'Allemagne, c'est bon. Christophe.
5, 4, je sais pas, moi.
3,
L'Uruguay.
2. L'Uruguay, c'est bon. Tu connais l'histoire, ils ont été deux fois champion du monde.
Sénégal.
Denis. Sénégal, c'est bon. Sarah.
Bah, l'Argentine.
L'Argentine, vamos.
Colombie.
Marc, la Colombie, c'est bon. Christophe.
5. Maroc.
Le Maroc, c'est bon.
Cameroun.
Denis, le Cameroun. Pas bon, éliminé.
Ils sont pas qualifiés.
Ils sont pas qualifiés.
C'est une honte.
Ça, ça.
Les USA.
C'est une honte.
Les USA, les États-Unis d'Amérique. C'est bon. Marc.
Algérie.
L'Algérie, c'est bon. Christophe.
5. Le Mexique. 4.
Le Mexique, c'est bon. Ils organisent. Sarah.
Le Canada.
Le Canada, c'est bon. Ils sont organisateurs aussi. Marc.
Angleterre.
L'Angleterre, c'est bon. On cherche les 48 pays qualifiés à la Coupe du Monde. Christophe.
C'est pas bon, là. Je sais pas.
5.
Ah ouais, là, c'est bon.
4. 3.
2.
1-0.
Éliminé. Il reste deux représentants de deux équipes différentes. Ça va se jouer là-dessus.
Les Sarah. Les Pays-Bas.
Déjà dit, éliminé. Déjà dit. Marc, tu as la balle de match.
Ah ben non, il faut que tu en dises un.
Eh oui.
Australie.
L'Australie
oui.
est à la Coupe du Monde. Oui. Charvet, Mathieu. Et comme Christophe Bad, Marc Mathieu, il l'applaudit alors qu'il est le plus grand mauvais joueur de l'histoire. On félicite Baccari qui gagne le voyage avec les campings Homer.
Jouer sur RMC avec Homer, des campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Homer, 400 campings, 400 raisons de revenir.
Merci Christophe de réinventer toujours la mauvaise foi dans les jeux du sport. Merci Denis. Qu'est-ce que j'ai fait ? Merci Sarah. Merci Marc Madio.
Merci. Je reste encore.
Tu peux rester encore. Ouais.
Je leur ai permis de gagner tout ça. Je leur ai donné des points en plus.
Les paris RMC arrivent tout de suite. Restez avec nous.